Sandrine, Nathanaël, c'est Positif Morning.
Merci d'avoir choisi le Positif Morning, c'est jusqu'à 10h et cette semaine, semaine très spéciale consacrée à la vie, Nathanaël.
Exactement, on va essayer de retrouver le miraculeux de la vie dans toutes ses dimensions, d'où ce thème, cette thématique célébrant la vie, avec aujourd'hui un invité qui va aborder l'origine de la vie, le miracle de la vie d'un point de vue cosmologique.
Exactement, c'est Pierre Nord qui est avec nous ce matin. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien de l'EPFL. Vous avez écrit plusieurs livres et alors justement, c'est ce qu'on veut aborder avec vous, le miracle de la vie d'un point de vue cosmologique. Avant d'aller au-delà dans ces questions, et on veut rassurer tous nos auditeurs, on va justement veiller à ce que tout soit, comment dire, rendre ces explications vraiment accessibles et compréhensibles. D'abord, première question, c'est quoi un astrophysicien, Pierre ?
Alors, étymologiquement, c'est un physicien qui s'occupe des astres, qui étudie les astres et qui applique les lois physiques pour comprendre l'évolution des étoiles, par exemple. Mm-hmm. Mais évidemment, l'univers est tellement divers que l'astrophysique, en fait, comprend une foule de spécialités. Vous avez le milieu interstellaire, vous avez les étoiles elles-mêmes en premier lieu, vous avez les planètes qui tournent autour de ces étoiles, ce qui est une discipline assez récente. Mmh. Vous avez les astrophysiciens qui s'occupent des galaxies, qui sont des systèmes de milliards d'étoiles chacun. Mmh. Et puis vous avez les cosmologistes qui étudient l'univers dans son ensemble, où pratiquement les galaxies ne sont plus que considérées comme des points, n'est-ce pas, qui, un peu comme les molécules d'un gaz, puisqu'on connaît des galaxies par milliards, enfin on ne les connaît pas, mais disons on les dénombre par milliards. Et les cosmologistes sont les gens qui étudient les propriétés de l'univers à très grande échelle.
Alors c'est vrai qu'il y a de quoi faire avec toutes ces belles choses, en effet. Alors on va parler donc du miracle de la vie d'un point de vue cosmologique avec vous, et plus précisément des origines de la vie d'un point de vue cosmologique. Moi, quand je lis ça, j'ai envie de vous poser une question qui est peut-être bête, mais on vient du cosmos, Pierre ?
Alors, Hubert Reeves, le fameux astrophysicien qui a beaucoup fait de vulgarisation scientifique, disait « nous sommes poussière d'étoiles », n'est-ce pas ? Ce qui est vrai, effectivement. Les éléments lourds ont été synthétisés, cuits, si vous voulez, dans le four que sont les étoiles massives, puis ensuite dispersés dans l'espace, et ont contribué à former les planètes autour d'étoiles de deuxième génération, etc. Et en fin de compte, les éléments dont vous êtes formés, oxygène, azote, carbone, etc., ont presque tous été formés à l'intérieur d'étoiles antérieures. Et puis l'hydrogène et l'hélium, qui existent aussi en grande quantité dans l'univers, eux sont originaires de ce qu'on appelle le Big Bang, quelques minutes après le Big Bang, pour être plus précis. Donc voilà, tous les éléments ont été créés dans l'univers, effectivement. Et dans ce sens-là, nous sommes les enfants du cosmos.
Oui. Du cosmos. Mais on verra ça, on parlera de Big Bang et puis aussi un peu plus tard dans cette émission. Et vous avez des questions précises à poser à notre invité. N'hésitez pas, vous pouvez le faire. Vous avez de la chance quand même. Hein. C'est pas tous les jours qu'on peut poser à un astrophysicien des questions. Mm-hmm. Plus 33 652 300 342 sur la page Facebook de Phare FM.
Toutes vos questions sont bien sûr les bienvenues. Ne soyez pas timides et profitez-en réellement ce matin. Plus 33 652 300 342 et la page Facebook, comme on vient de le dire, Pierre, on vous retrouve dans un tout petit instant.
Et on va parler de conditions d'apparition de la vie sur une planète dans quelques instants. À tout de suite.
La radio autrement, Phare FM, Phare FM.
Le Positif Morning continue, semaine très spéciale sur Phare FM, consacrée à la vie et au miraculeux dans la vie. Bah, celui qu'on ne voit plus, on est habitué à vivre finalement dans notre cadre, avec tout ce qui nous entoure. Mmh. Mais finalement, si on va chercher un petit peu plus loin, il y a des gens qui passent leur vie à étudier ces choses, à aller chercher un petit peu plus loin, d'où on vient, qu'est-ce qui nous constitue, etc. etc. et retrouver à quel point le miraculeux est présent absolument à chaque niveau de notre vie. Et Pierre Nord est un astrophysicien. Il est notre invité jusqu'à 10h. Posez-lui toutes vos questions.
Exactement. Il est en duplex avec nous. Et première question que j'ai à vous poser, Pierre, est-ce que l'univers a toujours existé ?
Alors, c'est une très bonne question, et c'était une question tout à fait qui faisait pas tellement de questions, enfin, qui n'était pas posée il y a encore un peu plus d'un siècle. Les gens, la plupart des scientifiques considéraient que l'univers était pratiquement éternel, sauf peut-être les croyants qui croyaient vraiment à une origine divine de l'univers. Et c'est assez intéressant de voir qu'Einstein lui-même, le premier modèle d'univers qu'il a fait, était un univers statique, Et donc éternel. Et puis, bêtement, un russe à peu près inconnu a réalisé que, en fait, les solutions des équations d'Einstein de relativité générale, les plus générales, étaient celles d'un univers en expansion, en fait.
D'accord.
En tout cas, un univers dynamique. Et donc, on a réalisé au début du XXe siècle, enfin dans les années, fin des années 20, que l'univers en fait était en expansion. Ça corroborait d'ailleurs des observations de Edwin Hubble, par exemple. Et du coup, on s'est aperçu que l'univers a une histoire, et une histoire qui n'est pas si longue que ça. Alors, 14 milliards d'années, vous me direz, c'est long sur l'échelle humaine, mais astrophysiquement parlant, c'est pas si long que ça. Alors, c'est intéressant quant à la question de la vie, parce que si vous avez un univers éternel, comme l'imaginaient par exemple les atomistes grecs dans l'Antiquité, vous pouvez imaginer toujours que les atomes peuvent se combiner dans des structures très improbables, puisqu'il suffit d'attendre assez longtemps que le hasard fasse bien les choses, en quelque sorte, n'est-ce pas ? Tandis que si vous avez juste 14 milliards d'années pour former tout ce qu'il y a dans l'univers que nous voyons maintenant, à partir d'un espèce de gaz très dense et très chaud, il faut former les galaxies, il faut former les étoiles, il faut former les planètes, il faut former les premières formes de vie, etc. Tout ça en un temps qui est limité, quand même. Et donc, on s'est aperçu qu'en fait, vous ne pouvez pas faire un univers fécond, c'est-à-dire susceptible d'abriter la vie, n'importe comment.
Oui.
Par exemple, la vitesse d'expansion de l'univers doit être pas trop rapide, parce qu'à ce moment-là, les grandes structures n'arriveraient pas à se former. Elles se sont formées sous l'effet de gravitation. Hein. Vous avez des grumeaux qui se forment, et qui, de gaz qui s'effondrent sur lui-même sous l'effet de son propre poids, en somme. Si vous dispersez la matière trop vite, eh bien, ces structures n'apparaissent pas. Inversement, si l'expansion est trop lente, eh bien, l'univers finirait peut-être par retomber sur lui-même après quelques milliards d'années avant que la vie ait le temps d'apparaître. Et ce sont ces considérations-là qui ont donné naissance à ce qu'on appelle le réglage fin, fine-tuning en anglais, qui est aussi une notion liée à ce qu'on appelle le principe anthropique de Anthropos, l'homme, qui, ce sont des réflexions qui ne sont pas forcément définitives et infaillibles, mais qui montrent qu'en fait, notre existence à nous n'est pas forcément complètement déconnectée des propriétés de l'univers à grande échelle.
Et
voilà,
bien,
en gros, l'idée, n'est-ce pas ? Donc, la structure générale de l'univers n'est pas indifférente à l'existence à petite échelle de la vie autour de nous.
Et bien justement, on va voir la vie, quelles sont les conditions pour qu'elles apparaissent. On va parler de zones d'habitabilité, d'étoiles, on va parler aussi d'orbites, de planètes, vraiment tout ça dans quelques instants. Et vos questions, vous pouvez les poser dès à présent, Sandrine.
Oui, tout à fait. Au plus 33 652 300 342, ce numéro de téléphone que vous connaissez. Et bien sûr, sur notre page Facebook Phare FM, n'hésitez pas, Pierre Nort est astrophysicien, il est notre invité jusqu'à 10h sur Phare FM. Profitez-en.
Et on essaie de retrouver le miraculeux dans plusieurs aspects, dans plusieurs dimensions. Et ce matin, on parle des origines de la vie.
Semaine spéciale consacrée à la vie, avec chaque jour un spécialiste qui sera avec nous aujourd'hui en duplex avec nous. On a l'honneur d'avoir Pierre Nort qui est astrophysicien. Vous lui posez toutes vos questions, bien sûr, il est là pour ça, il sera ravi d'y répondre. Profitez-en, c'est jusqu'à 10h.
Plus 33 652 300 342, vous nous envoyez ce message par SMS sur le répondeur Phare FM ou via l'application WhatsApp. Pierre, j'ai une question à vous, d'Étienne, qui nous dit ma question c'est, est-il possible de donner le nom de ma fiancée à une étoile qu'on viendrait de découvrir, ça me simplifierait la recherche d'un cadeau d'anniversaire.
Alors, je suis désolé, mais la réponse est non.
Oh. Non, mais c'est, sérieusement, rapidement, comment on attribue les noms aux étoiles et même aux planètes ?
Écoutez, au fait, la plupart des étoiles n'ont pas de nom, ce sont seulement les plus brillantes qui ont des noms que tous les amateurs connaissent, Bethelgeuse, Rigel, les étoiles de première grandeur en général, quelques étoiles de deuxième aussi. Et puis autrement, elles ont des numéros dans des catalogues.
Ah
voyez.
Oui, d'accord.
Maintenant, il y a un satellite qui est en train de répertorier 1,5 milliard d'étoiles dans notre galaxie. Et il est évident que ces étoiles vont être désignées par des coordonnées. Donc, ce sera un nom chiffré et pas du tout un nom tiré de la mythologie ou que sais-je. Mais,
c'est en effet...
Par contre, la question serait peut-être plus pertinente en ce qui concerne les objets du système solaire. Les astéroïdes, par exemple, on leur donne parfois des noms de gens qui ont fait des travaux méritoires en astronomie ou précisément sur les objets du système solaire. Mais ces noms sont attribués par l'Union Astronomique Internationale.
Donc vous n'y pouvez rien, vous, directement. Là.
Donc Étienne, si vous voulez écrire à l'Union Astronomique Internationale, ne vous privez pas.
Voilà, ça doit passer par là.
Vous demandez aussi à ceux qui trouvent des ouragans, il y en a souvent régulièrement, en plus c'est des noms féminins, donc ça pourrait très bien aller.
Pierre,
on revient un petit peu sur notre sujet, on parle de célébrer la vie, on essaie de retrouver le miraculeux un petit peu dans différents points de vue, et surtout du côté cosmologique. Quelles sont les conditions pour que la vie apparaisse? Notamment, il paraîtrait, c'est la fameuse grande étoile, c'est ça qui caractérise le début de l'apparition d'une vie, ou en tout cas les conditions.
Oui, alors, en général, bon, d'après ce qu'on connaît, on connaît assez peu de choses sur la vie dans l'univers. C'est notre exoplanète, nous, où on a une vie sur une planète qui tourne autour d'une étoile. Alors là, en fait, on quitte la cosmologie proprement dite pour se focaliser sur les conditions locales d'apparition de la vie. Et il faut déjà que l'étoile ait certaines caractéristiques importantes. Il faut voir que les étoiles sont très diverses. Il y en a qui sont 100 fois plus massives que le Soleil, elles sont rares. Il y en a qui ont la même masse que le Soleil, elles sont déjà beaucoup plus nombreuses. Et il y en a d'autres encore plus nombreuses qui sont peut-être la moitié ou 10 fois plus petites en masse que le Soleil. Et plus une étoile est petite, assez curieusement, et plus longtemps elle vit. Donc vous avez une durée de vie, les étoiles sont comme les êtres humains, sauf qu'elles ont des durées de vie extrêmement variables. Une étoile d'une dizaine de masses solaires ne vit que quelques dizaines de millions d'années, plutôt plus. Tandis que le Soleil vit 10 milliards d'années. Or, la vie a besoin d'une longue patience pour se développer, n'est-ce pas? D'après l'exemple unique que nous connaissons, il faut plusieurs milliards d'années pour passer d'une vie élémentaire à une vie développée, des mammifères, et puis enfin une vie intelligente humaine. Et donc, pour ça, il faut des conditions stables et une étoile qui soit de suffisamment petite masse pour offrir ces conditions stables. Par exemple, une étoile de type solaire. Alors, il y en a beaucoup, heureusement.
Alors, ça veut dire qu'il y a peut-être la vie à d'autres endroits.
Pas n'importe quelle étoile non plus qui peut abriter un système planétaire susceptible de porter la vie.
Donc, ça veut dire que peut-être il y aurait la vie dans un autre système solaire aussi. C'est un petit peu ce que vous voulez nous dire. Il pourrait y avoir.
A priori, oui. On n'en sait rien. Mais en tout cas, on sait qu'il y a de la vie sur la Terre.
Et bien justement,
c'est la seule chose qu'on sache.
On va revoir aussi quelles sont les conditions, parce que ça ne dépend pas que de le Soleil. Oui, le Soleil est une première, ou en tout cas cette étoile, comme vous le disiez. Mais il y a peut-être d'autres conditions, notamment la zone d'habitabilité. On en reviendra sur ce sujet dans quelques instants. Le temps de faire une pause, Sandrine.
La radio autrement.
Retrouver le miraculeux de la vie dans toutes ses dimensions, tel est l'objectif de cette semaine spéciale sur Phare FM consacrée à la vie. On veut célébrer la vie avec des gens, des spécialistes qu'on aura, qui seront différents à chaque jour et qu'on va avoir la chance d'avoir donc tout au long de cette semaine. Notre premier spécialiste et invité de la semaine, c'est Pierre Nort, il est astrophysicien et on continue à parler avec vous des origines de la vie. Pierre, on va prendre aussi les questions que vous nous posez, plus 33 652 300 342.
Exactement, on parlait de cette fameuse étoile, à savoir le Soleil pour notre système solaire. C'est une des conditions d'habitabilité. Il y en a d'autres, notamment l'orbite de la planète Terre. Il y a aussi ce qu'on appelle une zone d'habitabilité. Vous pouvez nous éclaircir un petit peu tout ça, Pierre?
Oui, alors il s'agit simplement de garantir que la température sur la planète ne soit ni trop haute ni trop basse. Et le critère en général qu'on prend, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'eau liquide sur la planète, parce qu'on aurait vraiment beaucoup de peine à faire une vie basée sur le carbone, en tout cas, qui soit compatible avec de la glace, qui reste de la glace en permanence, ou bien de l'eau sous forme de vapeur uniquement. Donc, l'eau liquide est très importante pour le fonctionnement de la vie. Et pour ça, il faut que la planète soit ni trop près, ni trop loin de l'étoile centrale. C'est assez clair. Alors, ça veut dire que l'orbite doit avoir une certaine dimension qui dépend de la luminosité de l'étoile centrale. En deuxième lieu, il faut que l'orbite soit assez proche d'un cercle. Vous savez que les planètes circulent sur des orbites elliptiques. C'est la deuxième loi de Kepler. La première, Si cette ellipse est trop allongée, ça veut dire que les distances varient énormément au cours de l'année et le climat varie de manière tellement drastique que ça compromet en fait le fonctionnement de la vie, n'est-ce pas ? Maintenant, il y a une autre condition qui est intéressante. La planète que nous habitons, en tout cas, n'est pas seule dans son système. Il y a aussi des planètes géantes comme Jupiter et Saturne qui gravitent un peu plus loin. Il faut aussi que les orbites de ces planètes-là soient suffisamment circulaires pour qu'elles ne viennent pas perturber gravement l'orbite de la planète habitable qui risquerait même d'être éjectée du système à long terme. Vous voyez. Donc ça, c'est des conditions nécessaires qui sont satisfaites pour ce qui concerne notre Terre. Maintenant, il y a encore des propriétés de la planète elle-même qui sont importantes. La planète doit être géologiquement active.
Ça veut dire quoi, ça, exactement ?
Ça veut dire qu'il faut y avoir de la tectonique des plaques. Mmh. Vous savez que la dérive des continents fait que vous avez certaines plaques continentales qui s'enfoncent dans le manteau, par exemple, dans le Pacifique, au large de l'Amérique du Sud, etc. Et tandis que d'autres, de la Terre apparaît sur la dorsale atlantique, etc.
Mais en quoi c'est important, ça, ce mouvement de la planète, finalement ?
Oui, alors, c'est important pour au moins deux raisons. D'une part, ça stimule un effet dynamo qui produit le champ magnétique terrestre.
D'accord.
Et ce champ magnétique protège la biosphère de rayons cosmiques qui pourraient être létaux autrement, en déviant les particules chargées qui viennent de l'espace. Et c'est une sorte de bouclier, si vous voulez, qui nous protège. Et puis la deuxième raison, c'est le cycle du carbone, du CO2 plus exactement, du dioxyde de carbone, qui se précipite, donc le CO2 atmosphérique se transforme à long terme en carbonate qui se dépose dans des couches sédimentaires, lesquelles sont restituées au manteau par la subduction, justement, quand les plaques pénètrent à l'intérieur sous la croûte continentale. Et puis, à long terme aussi, ces carbonates sont chauffés dans le manteau, restituent le dioxyde de carbone, qui est finalement rejeté par les volcans. Et c'est un processus qu'on appelle le cycle du CO2, le cycle long, qui stabilise en fait le climat.
Bon, voilà.
On n'entre pas dans les détails, mais c'est un facteur qui est assez important et qui semble rendre la vie assez rare, justement, parce qu'il faut beaucoup de conditions pour qu'une planète satisfasse à toutes ses exigences.
Justement, c'est exactement ce que je voulais vous dire. Beaucoup de conditions pour que la vie existe. Et on va rentrer dans le côté un peu plus métaphysique, science. Est-ce que ça s'oppose ? Est-ce que finalement la science confirme ce qu'on voit ici écrit dans la Bible, à savoir que Dieu ou Dieu même a créé la vie. On voit ça dans quelques instants, Sandrine.
Oui, tout à fait. Vous posez vos questions, bien sûr. Peut-être que vous êtes interpellé depuis ce matin par les interventions de Pierre. N'hésitez pas à lui poser toutes vos questions. Plus 33 652 342. Vous connaissez ce numéro de téléphone, utilisez-le. Et notre page Facebook Phare FM, bien sûr.
Phare FM.
Phare FM.
Phare FM. Phare FM. La radio autrement.
La radio autrement qui consacre cette semaine à la vie, au miraculeux de la vie qu'on essaye de retrouver grâce à nos invités prestigieux. Ça commence aujourd'hui et puis ça va se terminer vendredi. Donc posez toutes vos questions, il y aura un axe différent qui sera abordé à chaque fois. Et vraiment le but c'est finalement de réaliser en fait dans quel univers on vit, sur quelle planète on vit, qu'est-ce qui nous entoure. De pas juste voir les choses j'allais dire au premier degré, mais finalement d'aller chercher un petit peu plus loin, de se dire mais d'où ça vient, mais pourquoi on est là, etc., etc. Et bien sûr de manière extrêmement accessible, et c'est pour ça que nos invités sont là. On est en duplex toujours avec Pierre Nord qui est astrophysicien, c'est jusqu'à 10h. Posez-lui toutes vos questions au plus 33 652 300 342. Alors on y arrive, Nathanaël, tu l'abordais juste avant le titre qu'on a écouté à l'instant. Est-ce que plus on s'avance, Pierre, dans la science, plus on étudie tout cela, plus on va dans les choses précises scientifiquement parlant, plus on s'éloigne de la religion et plus on s'éloigne de Dieu, ou c'est l'inverse ?
Ça dépend pour qui. Pour moi, c'est l'inverse, disons.
C'est compatible, alors. Dieu et la science, c'est compatible.
Oui, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de confusion là-dessus, surtout depuis le procès de Galilée, où on a fait une opposition entre la démarche scientifique et puis la croyance religieuse. Mmh. En fait, les deux sont tout à fait compatibles parce que ce sont deux choses différentes, n'est-ce pas ? Mmh. Et on peut très bien envisager l'exploration scientifique comme une forme de louange même, enfin, ou de prise de conscience des merveilles, oui. Des merveilles de la création, n'est-ce pas ? Tout est connu. C'est pour nous aussi bien que pour n'importe qui d'autre. Finalement, tout est une question de foi en ce qui concerne Dieu. Ouais. Il faut bien distinguer la démarche scientifique qui est toujours limitée à en fait c'est un jeu avec des règles.
Voilà.
Vous avez le jeu consiste à trouver des régularités dans la nature en l'observant, en l'interprétant mathématiquement pour ce qui est de la physique. Et puis de trouver des règles qui sont les lois physiques. Et puis une fois que vous avez trouvé des lois physiques, eh bien, vous vous dites, ah tiens, on peut expliquer tel et tel phénomène en fonction de ces lois. Et puis on tâche d'étendre au maximum le domaine de phénomènes explicables. Voilà, c'est tout. Mmh. Et mais au fond, l'explication scientifique est une explication relative en ce sens qu'elle explique les choses en fonction d'autres choses qui sont les lois physiques, en fin de compte. Mmh. Mais dont personne ne connaît l'origine. Donc, ne connaîtra jamais l'origine en utilisant la méthode scientifique.
Donc, c'est-à-dire que vous êtes chrétien, hein, donc, et est-ce que votre vision chrétienne a influencé ou influence vos recherches en tant que scientifique ?
Pas directement, non. Non, ça peut stimuler l'émerveillement, disons, mais j'ai des collègues athées, j'ai des collègues d'autres religions, un collègue Baha'i, par exemple. Vous avez un prix Nobel comme Chandra Sekhar, qui était hindouiste. Donc, c'est pas directement lié. Mmh. Ce qu'il faut, c'est avoir l'amour de la vérité, l'amour du travail bien fait, de la curiosité aussi. Il faut avoir cette insatiable curiosité de l'enfant d'éléphant, comme dirait Kipling. Et puis, si vous êtes doué de ça, eh bien, vous pouvez avancer, quelles que soient vos croyances religieuses, en fait. Mais, pour ce qui me concerne, évidemment, la foi en Dieu est un plus, bien sûr.
Il existe...
Mais ce n'est pas directement lié.
Il existe beaucoup de scientifiques chrétiens. Est-ce que dans l'histoire aussi, on pourrait citer quelques noms ? Finalement, on ne savait pas que ces personnes étaient des scientifiques chrétiens.
Oh, vous avez Maxwell, par exemple, qui a établi les lois de l'électromagnétisme. Vous avez Faraday. Vous avez Newton, évidemment, le grand Newton, auteur de la théorie de la gravitation. Vous avez Kepler aussi, qui a d'ailleurs souffert de sa foi protestante parce qu'il a dû quitter une ville à cause du fait qu'on lui offrait le choix entre partir ou rester mais se convertir au catholicisme. Enfin, alors il y a Pasteur aussi, enfin, donc on pourrait citer
de grands
très nombreux hommes de science, mais il y a aussi, bien sûr, aussi des athées. Einstein était un peu déiste, mais pas vraiment croyant en un dieu personnel.
Alors, on a une question auditeur pour vous, Pierre.
Puisqu'on est parti justement dans les questions métaphysiques, question d'un auditeur ce matin. Si l'univers est dynamique, et ça, c'est ce qu'on disait précédemment avec vous, si l'univers est dynamique, c'est qu'il y a un début à l'univers. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant ce début ? Est-ce que ça, on le sait ? Est-ce qu'on aurait moyen de le savoir ?
Alors, c'est une question difficile. Tout ce qu'on peut dire, c'est que rigoureusement parlant, on ne peut pas prouver que le Big Bang coïncide véritablement avec l'origine de l'univers ou même le commencement d'univers. Alors, il y a une distinction philosophique entre origine et commencement. Je n'ai pas commencé à entrer dans les détails. Donc, rien n'exclut que quelque chose ait précédé. Peut-être, parce qu'on n'a pas de théorie qui permette de lier la gravité, la mécanique quantique, par exemple. Donc, il y a un flou, là, qui ne permet pas de dire s'il y avait quelque chose avant ou pas. C'est une question intéressante parce que, déjà, Saint Augustin l'avait traité en disant, lui, que le temps avait été créé en même temps que l'espace. Et que, par conséquent, parler de l'avant de l'origine de l'univers, évidemment on ne parlait pas de Big Bang à cette époque, n'avait pas vraiment de sens parce que le temps était créé aussi bien que l'espace. Et donc c'est Dieu qui était à l'origine de tout ça, mais voilà. Alors, pour le scientifique, pour l'instant, on voit mal comment prouver qu'il y avait quelque chose avant. C'est extrêmement difficile.
Alors, on va continuer avec vous sur Phare FM. Il est 9h43. Si vous voulez poser vos questions, c'est véritablement maintenant au +33 652 300 342. Nous sommes en duplex jusqu'à 10h avec Pierre Nort, qui est astrophysicien. Ça se passe sur Phare FM. Merci d'être avec nous. Le Positive Morning, c'est jusqu'à 10h. Positive Morning particulier toute cette semaine, puisque de 9h à 10h, on aura un invité de pointe, si je puis dire. En tout cas, spécialiste dans son domaine, parce que cette semaine est consacrée à la vie sur Phare FM, à retrouver le miraculeux de la vie. On est persuadé qu'il y a véritablement que la vie sur Terre et tient véritablement du miracle. Et c'est justement ce qu'on aborde avec les spécialistes qui vont être invités toute cette semaine. Pierre Nort est astrophysicien, il est avec nous aujourd'hui.
Question pour vous, Pierre. En tant que chrétien, nous avons donc la Bible et on nous dit que Dieu a créé la vie. Est-ce que les scientifiques ou est-ce que la science peut contredire cela?
Non, parce que il y a une hiérarchie en fait. Par hypothèse, n'est-ce pas, si vous prenez la définition de Dieu, Dieu est à l'origine de tout. Et puis. Il est écrit dans la Genèse, au commencement, Dieu créa. Donc tout ce qui est et qui s'offre à nos yeux vient de Dieu d'un point de vue théologique, d'un point de vue métaphysique, si vous voulez. Et Dieu a offert à l'homme le mandat de gérer la création, cultiver le jardin d'Éden, etc. Et au fond, du point de vue théologique, au fond, là je me place un peu en théologien amateur, si vous voulez, l'homme à maîtrise sur ce sur quoi Dieu l'a établi maître ou souverain, si vous voulez, et pas au-delà. Donc, la science fait partie de ce domaine-là et est nécessairement limitée. Elle est limitée à ce que l'homme est capable de contrôler, en fait, et de comprendre. Et la science n'est pas faite pour comprendre ce qu'il y a au-dessus dans la hiérarchie dont je parlais.
Le Positif Morning jusqu'à 10h avec notre invité en duplex, Pierre Nort. Il est astrophysicien. On a reçu des questions, Pierre, des questions d'auditeurs. On a abordé avec vous la question du Big Bang. Qu'est-ce qu'il y avait avant? On n'est pas en mesure de prouver qu'il y avait quelque chose avant. Parlant de Big Bang, Julie nous demande, est-ce que c'est une approche biblique de parler du Big Bang si Dieu a tout créé?
Alors, c'est une très bonne question parce que en fait, elle a été soulevée déjà il y a pas mal de temps, en 1951 pour être précis, par le pape Pie XII lors d'un discours à l'Académie pontificale des sciences, où il faisait le parallèle entre la théorie du Big Bang qui commençait tout juste à prendre forme avec en particulier l'abbé Lemaître, et son hypothèse de l'atome primitif qui a été maintenant depuis transformé. Et il faisait le parallèle entre le fiat lux, n'est-ce pas, que la lumière soit de la Genèse, et puis cette espèce d'explosion initiale, si on peut dire, que nous appelons le Big Bang. Alors, je ne sais pas. Disons, l'abbé Lemaître lui-même était très gêné parce qu'il essayait de séparer le domaine scientifique du domaine métaphysique, justement, et religieux. Il a d'ailleurs sermonné le pape à ce sujet, si on peut dire. Mais moi, ça ne me gêne pas spécialement qu'on fasse le parallèle. Simplement, les gens très prudents disent « Ouh, mais attention, la science progresse, évolue, et il se peut que cette théorie du Big Bang soit, disons, remplacée par une autre qui rendrait impossible cette espèce de correspondance, de raisonnement concordiste entre le texte biblique et puis le résultat scientifique, vous voyez. Donc, pourquoi pas? Disons, ce que je trouve important, c'est de ne pas prétendre dicter à Dieu la manière dont il a créé l'univers. Voyez, donc la Bible nous dit c'est Dieu qui est à l'origine de tout. Maintenant, comment est-ce qu'il s'y est pris exactement pour créer l'univers lui-même, la Terre, les êtres vivants, etc. C'est le domaine de la science d'essayer de le trouver. Et voilà.
Mais peut-être de ne pas pouvoir tout trouver, justement, et ça vous le disiez aussi dans cette interview.
Alors, vous aimez citer régulièrement Jean Rostand pour expliquer la métaphysique. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
Oui, alors, il y a deux citations. Jean Rostand était un biologiste athée, extrêmement lucide. Il pose, je vais citer deux de ces aphorismes. Le premier, c'est celui-ci, pour illustrer la notion d'explication en science d'une part et en métaphysique d'autre part. La première citation, c'est « Chacun fixe le seuil de ses ébahissements. Les miens commencent dès l'animal. Expliquez-moi le crapaud. » Je crois que c'était spécialiste des grenouilles. « Je vous tiens quitte de l'homme. » Vous voyez, l'explication à laquelle il fait allusion ici, c'est une explication clairement métaphysique. Pourquoi est-ce qu'il y a l'homme? Pourquoi est-ce que nous sommes là? Etc. Et puis une autre citation qui est amusante aussi, il a dit ça dans les années 60, « La science expliquera tout et nous n'en serons pas plus éclairés. Elle fera de nous des dieux ahuris. » Et là, la science expliquera tout. Il s'agit d'explications purement scientifiques, c'est-à-dire techniques, d'une chose en fonction d'une autre, l'autre étant l'ensemble des lois physiques. Alors, ça, c'est l'explication scientifique, ça satisfait beaucoup de gens, mais ça ne satisfait pas les gens qui ont soif d'éternité, en quelque sorte, n'est-ce pas ? Donc, vous avez l'explication scientifique qui est une explication en fonction des lois physiques, mais vous avez l'existence des lois physiques qui, elles, ne peut pas être expliqué dans le cadre de la science, mais seulement dans le cadre de la métaphysique.
Il nous reste 1 minute 45 avant de rendre l'antenne. On a une question de Santo qui vous pose la question de savoir ce que vous pensez de ce qu'on appelle le créationnisme.
Alors, le créationnisme... Alors, premièrement, disons, tout chrétien est ipso facto créationniste, dans le sens, attention, pas dans le sens populaire, dans le sens où il croit que Dieu a créé l'univers. Dans le sens général, alors tout chrétien est créationniste, évidemment. Maintenant, l'acception populaire du terme, c'est le créationnisme jeune terre, n'est-ce pas, la terre n'aurait pas plus de 6000 ans ou 10 000 ans peut-être pour les plus libéraux. Et puis Dieu a créé les espèces par une sorte de miracle. Alors, là, je reprends ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut être extrêmement prudent et ne pas vouloir dicter à Dieu la manière dont il s'est pris pour créer l'univers. Et je ne suis pas gêné personnellement par l'idée que Dieu aurait pu utiliser des processus évolutifs pour créer. De toute façon, le résultat est époustouflant et relève du miracle, que le miracle soit prenne du temps ou non.
D'accord.
Merci beaucoup en tout cas Pierre Nort, on aurait voulu aborder tellement plus de choses avec vous, mais en tout cas c'est la fin de cette matinale. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous et on vous souhaite une belle journée Pierre. N'hésitez pas vous en tout cas à continuer à poser vos questions, c'est toute cette semaine sur Phare FM.
Exactement.
Qui est consacrée à la vie.
Et vous retrouverez les replays sur pharefm.com. Merci beaucoup Pierre.
Merci à vous.